Chapitre 8. Et tu ne lui as rien dit ? Florence s'était rapprochée de moi et avait posé sa tête sur mon épaule. Je fumais une des cigarettes de Gênes. Il faisait bon. Le soleil, par la fenêtre, venait sur nos ventres. Nous étions nus. Les draps chiffonnés pendaient au pied du lit, pareils aux eaux figées d'une cascade. Nous avions fait l'amour, comme le vieux couple que nous n'étions plus tout à fait, et cela avait été agréable, bien entendu. Je n'ai pas répondu immédiatement à Florence. Je venais de lui raconter mon entrevue avec le médecin qui s'appelait Elena, ce qu'elle m'avait dit de ses recherches, et soudain la révélation que j'avais eue quand elle s'était recoiffée de découvrir ma voisine sous les traits de la jeune chercheuse. Je crois que ce qui m'a le plus troublé, c'est la notion de distance. J'ai eu le sentiment d'une épreuve. Pendant des mois, quelqu'un, disons, le maître du jeu, place sous mes yeux un corps à distance qui est un simple corps, dénué de toute personnalité réelle, que je ne connais que par les mouvements qu'il effectue, le dessin de sa silhouette, la mesure que je peux en prendre, toute relative. On m'interdit de l'approcher tout en exhibant sous mes yeux sa nudité. On me permet simplement de le regarder, mais tout en laissant entre lui et moi un vide que je pourrais qualifier de sanitaire, comme on le dit en construction quand il s'agit d'isoler d'un sol humide un bâtiment qu'on veut préserver. Et puis soudain, par un brusque caprice de celui qui tient les ficelles, les règles du jeu sont modifiées et on m'enferme dans un lieu ridiculement petit où je me retrouve pressé contre ce même corps, mais que je ne peux reconnaître tant il est proche. Trop proche. Je perçois des éléments d'une extrême intimité, le parfum d'orange de son haleine, l'odeur de lessive de sa blouse, celle d'un déodorant peut-être et aussi d'une légère et agréable sueur. Mais la mise au point est impossible. Je manque une fois encore de distance. Je suis cette fois beaucoup trop près. Ce n'est jamais la bonne distance. Ces événements sont une parabole sur la distance idéale qui nous permet de connaître les êtres et de vivre en leur compagnie, ni trop près, ni trop loin. Reste à trouver cette distance. Avec elle ? Avec elle, avec tous, avec nous-mêmes aussi. Je crois que c'est cela qui m'occupe. J'ai toujours eu tendance à un peu trop m'écouter. Il faudrait peut-être que je prenne mes distances vis-à-vis de moi-même. Florence et moi avions divorcé comme nous nous sommes mariés, en douceur, sans cri, sans extrême, d'un commun constat et d'un commun accord. Le juge s'est même étonné de nous voir aussi complices, aussi proches durant la procédure. Les avocats semblaient déçus de ne pas être parvenus à nous faire nous entre-déchirer. Pas une goutte de sang, pas un mot fielleux, pas une lettre calomnieuse. C'est aussi une affaire de distance qui a eu raison de nous. J'étais un perpétuel absent. Ma présence était temporaire, intermittente, imprévisible. Florence aurait voulu un mari. Elle avait eu un courant d'air. Agréable, disait-elle. Rafraîchissant parfois. Insuffisant, toujours. Les moments d'écriture durant lesquels j'avais besoin d'être seul, les préparations où j'étais avec une assistante, les repérages avec une partie de mon équipe, les tournages, le montage, la post-production. Une vie de cinéaste, une vie loin d'elle. Au fond, c'est avec Eugène que tu es mariée, pas avec moi. Florence n'avait pas tort. Je passais plus de temps avec Eugène qu'avec elle. Le vrai couple, c'était nous, à la vie, à la mort. Et puis, il y avait eu l'enfant. Agathe aurait eu 22 ans hier. Tu y as pensé ? Le soleil avait quitté nos ventres. Il paraissait sur l'avant-bras droit de Florence. L'été vibrait au dehors. On sentait la ville et ses rumeurs engourdies. Tu as entendu ce que je viens de te dire ? Bien sûr que j'avais entendu. Florence et moi avions presque été parents. Nous avions presque eu un enfant. Nous avions eu un enfant mort. Un enfant mort-née. Mort-née. C'est une des formules les plus abruptes de la langue. Définitive. Là encore, une affaire de distance. Une distance infiniment petite dont la petitesse signe l'absence puisque les deux extrêmes, naissance, mort, se confondent. Naître mort. Le plus effroyable des oxymores. Et nous avions donné un prénom à l'enfant parce que la loi ne permet pas d'enterrer un être innommé. Agathe. Prénom doux, en apparence. Prénom d'un autre temps. Siècle perdu. Enfant non apparu. Un prénom qui jamais ne fut dit à un enfant vivant, mais fut déposé sur le petit corps, infime, ridé, pâle. Un nom comme un linceul. Lorsqu'on me demande si j'ai des enfants, je réponds que non. Et je dis la vérité. Si on me demandait si j'avais eu des enfants, je dirais encore une fois que non. Et là aussi, je dirais la vérité. Mais si on pose la question à Florence, elle répondra que oui. Elle a eu une fille, Agathe, mais qu'elle est morte. Qu'elle aurait 22 ans désormais. Qu'elle serait une jeune femme. Et Florence dira aussi la vérité. Car contrairement à moi, Florence a fait grandir Agathe en elle. Comme l'arbre du pays Toradja, elle a continué au fil des années à faire croître son enfant au profond d'elle. Son corps de femme s'est empli de la présence du petit corps mort qu'elle n'a jamais vraiment enterré, mais qu'elle a accueilli à demeure, dans sa maison intérieure et dans sa vie, le modelant selon les âges, l'épanouissant en une fille étrieuse, puis une jeune fille éternelle et idéale qui a pris tant de place que jamais Florence, ni avec moi, ni avec Luc, son nouveau mari, n'a par la suite tenté d'avoir un autre enfant. Moins de peur, j'en suis persuadé, de voir une fois encore extrait de son ventre un être mort, que de faire disparaître définitivement celui que la vie n'a pas daigné animer, mais qu'elle s'est chargée de faire exister. J'ai embrassé Florence et suis allé prendre une douche. Nous nous retrouvons toujours dans le même hôtel, situé dans une rue calme près de la Sorbonne. Le personnel nous connaît. Nous sommes le couple de la 107. J'ai failli faire un film avec ce titre, « Le couple de la 107 ». J'avais même demandé à Eugène de le déposer. Il l'a fait. Eugène faisait tout ce que je lui demandais. Il n'était jamais contrariant. C'est la première des qualités pour un producteur, s'accommoder du fou avec lequel il a décidé de travailler. J'ai contacté deux ou trois actrices. J'ai eu un long entretien avec Isabelle Adjani, dans un salon de thé discret du boulevard Raspail, durant lequel elle n'a dit qu'une seule phrase. Comme c'est étrange. Mais en la répétant durant toute notre rencontre. Comme c'est étrange. J'ai pris quelques bières avec Alain Bachung, à qui je voulais confier le rôle masculin. Nous avons tous deux évoqué le beau film de Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir. Nous en avons parlé durant des heures. Les serveurs du bar ont fini par nous pousser vers la sortie. Bachung est mort quelque temps après. J'ai écrit un synopsis, fait des croquis, et puis j'ai renoncé. Au fond, ce n'était qu'un titre. Le couple de la 107 n'était pas un couple. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas une histoire destinée à vivre et à durer. La fiction, parfois, est plus exigeante que la vie. Je savais que j'aurais beau me savonner le visage, je garderais jusqu'au soir l'odeur du sexe de Florence sur ma peau et mes lèvres. J'aimais cela. De toutes les odeurs du corps, celle du sexe féminin est une des plus prégnantes. Elle dépose sur celui qui l'a longuement embrassée une marque durable, comme un sceau d'appropriation. Nous avons cru le posséder, mais c'est bien lui qui nous possède et qui nous hante. Fantôme de parfum, fantôme de corps, fantôme de voix. Autour de nos vies flotte un bouquet d'absence et de présence mêlées. Je suis passé prendre Eugène ce soir-là. J'ai fait patienter le taxi devant l'hôpital. Depuis un mois, le cancer d'Eugène était revenu de vacances. Il avait posé ses valises quelque part dans les cervicales de mon ami. Le poumon ne semblait plus l'intéresser. Il s'attaquait aux os désormais. Je me le figurais sous l'aspect d'un de ces insectes xylophages, persévérants et butés, qui rongent les poutres des maisons, espérant ainsi les faire s'écrouler. Eugène m'avait appris la nouvelle comme s'il m'avait annoncé qu'il allait faire repeindre sa chambre. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir au visage que j'aurais dû composer. « Ne fais pas cette tête. Tu n'es pas prêt d'être débarrassé de moi. Tout cela est très normal, on m'avait prévenu. » Je n'ai pas osé lui demander de quoi encore on l'avait prévenu et dont il ne m'entretenait pas. Quelle serait la prochaine étape du périple touristique de son cancer? Le foie, les reins, les métatarses, les intestins, le cervelet? Ce goût pour la villégiature et le nomadisme distinguait cette maladie d'une quantité d'autres, moins volages, mais tout aussi dangereuses, qui préféraient se sédentariser sur un organe et le détruire avec méthode et jusqu'au bout. Eugène m'attendait en plaisantant avec une infirmière, dans une salle attenante au service où étaient administrées les chimiothérapies. Il portait beau encore, une légère fatigue peut-être, qui voilait ses traits, les tirait un peu, à peine. Il sourit en m'apercevant. « Voilà mon artiste !» L'infirmière me regarda. « Ainsi, c'est cela un artiste » dut-elle penser. « Un type d'une cinquantaine d'années, un peu grand, un peu voûté, avec plus trop de cheveux sur le crâne, un air à la fois perdu et juvénile, qui paraît malade mais ne l'est pas, fringué à l'as de pique, mal rasé, irritable. » On me dit souvent que je ressemble à Jean-Pierre Bacri, ce qui ne me déplaît pas car j'aime beaucoup ce comédien, même si je n'ai jamais songé à faire appel à lui pour un de mes films. Par peur sans doute, par peur d'être trop près de moi. Eugène a tenu à faire durer les présentations. Il fallait absolument que je connaisse l'infirmière. Elle s'appelait Anne-Marie. Elle avait 38 ans. Elle venait du Limousin. Elle était mariée à Simon, qui lui aussi venait du Limousin. Simon était chargé de la maintenance informatique d'une succursale du Crédit Agricole. Ils avaient deux enfants de 8 et 5 ans, Jules et Sarah. Ils habitaient un pavillon à gré tournant, acheté à crédit sur 25 ans. Anne-Marie aimait le jardinage et la cuisine. Sa spécialité était le tagine d'agneau. Simon jouait au tennis, il était classé. Il partait chaque année en vacances à l'île d'Oléron, et une semaine en hiver à Samoëns, en Haute-Savoie. Simon et les enfants raffolaient du ski, mais pas Anne-Marie, qui avait peur de tomber. Elle lisait des romans et des revues en haut des pistes. J'entendais Eugène me délivrer toutes ces informations sur l'infirmière sans comprendre dans quel but il le faisait. Quant à l'infirmière, elle le laissait parler, gardant son sourire, se laissant présenter comme si elle allait être soumise à l'appréciation d'un jury de comices agricoles. Elle était un peu forte, blonde et rose. Elle semblait scandaleusement en bonne santé, et au moment même où je me faisais cette réflexion, je mesurais ma bêtise. À quoi ressembleraient les hôpitaux si le personnel soignant, pour ne pas déplaire aux patients ni à leurs visiteurs, paraissait encore plus malade qu'eux? Mais qu'est-ce qui t'a pris avec l'infirmière? Le taxi roulait sur les quais. La Seine se teintait avec le soir des couleurs de rose ancienne. Quantité de jeunes gens marchaient torse nu le long du fleuve. Quelques jeunes femmes étaient en soutien-gorge. L'été s'enroulait à Paris comme une écharpe de lin autour d'une gorge. Eugène frissonnait malgré son veston et un par-dessus de demi-saison. « Je m'intéresse aux autres. » Eugène avait dit cela sur un ton mélancolique, que je ne lui connaissais pas, comme si la phrase contenait un regret, le regret de ne pas avoir mis en pratique plus tôt ce soudain intérêt pour ses congénères. Mon ami n'était aucunement un égoïste, c'était un homme de son siècle, ni plus ni moins. Nous avons cessé depuis des lustres de croire en l'hypothèse du bonheur collectif. Notre trajet personnel est déjà assez rude, nous passons nos vies à nous préoccuper de nous-mêmes, vaste projet. J'ai ouvert grand les fenêtres de mon appartement, il était 19h30. Elena, désormais elle avait un prénom, n'était pas encore rentré. Sa chambre, vide, faisait songer à la scène d'un théâtre aux heures du jour. Je me suis versé un verre de Sancerre et je repensais à Anne-Marie, l'infirmière. Quel était au juste son métier véritable? Certes, accueillir, soigner, mettre en place le protocole de la chimiothérapie, vérifier le bon déroulement de la séance, les réactions du malade, le rassurer, le réconforter. Mais tout cela, c'était la façade. En vérité, elle était une gardienne. Elle se tenait à la porte, sur le seuil du domaine des morts, et observait celles et ceux qui bientôt allaient le rejoindre. Elle savait. Elle savait les reconnaître. Je suis certain qu'elle pouvait distinguer celui qui s'approchait de plus en plus de la porte, et l'autre qui, au contraire, de séance en séance, s'en éloignait. Ses yeux souriants contenaient les visages de ceux qu'elle avait vus peu à peu s'effacer. Son corps gardait la mémoire des corps souffrants qu'elle avait touchés, soulevés, perfusés, massés, étreints, lavés, pansés. Le Sauvignon me rappelait des prairies en fleurs, renoncules, crocus, asphodèles, des printemps perpétuels. Je buvais les yeux clos, une saison de fraîcheur et de sève montante. Je me dis que le monde est un bien bel indifférent qui nous laisse aller sans nous retenir. Dans le deuxième verre est revenu le corps de Florence, ainsi que son sourire lent après la jouissance, toujours le même, celui d'un chat qui s'étire. Dans le troisième, se sont perdus mes regrets. Dans le quatrième verre, j'ai trouvé matière à nourrir ma tristesse. À 20h, Elena a ouvert la porte de son appartement. La représentation pouvait commencer.